Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus. Nous sommes Charles Buffalino et Maxime Van Hollebeek, deux étudiants en master de journalisme à l'ULB. Vous allez écouter Histoire de savoir, une émission consacrée à la vulgarisation de sujets scientifiques. Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre entretien avec Cathy Clairbeau qui a tenu la conférence Pollution, voir, comprendre et surveiller depuis l'espace le 30 mars dernier à l'ULB.
Effectivement, Charles, Cathy Clairbeau est professeure en sciences de l'atmosphère et du climat à l'ULB. Lors de cette conférence, elle a raconté être passionnée par l'espace depuis son plus jeune âge. Elle a également mentionné un carnet qu'elle a alimenté une bonne partie de son adolescence. Nous lui avons demandé ce qu'il contenait.
Alors, ce n'est pas un carnet, c'est 7 carnets, parce que je fais ce carnet depuis mes 12 ans jusqu'à mes 16 ans. Et ce que je faisais, c'est que je lisais tout ce que je voyais passer sur l'espace, mais donc ça concerne les autres planètes, le Soleil, les galaxies, tout ce que j'essayais de comprendre. Et en particulier, je lisais à ce moment-là Spirou. Et dans Spirou, il y avait les premières photos de Saturne, Jupiter, etc. Parce qu'il y avait des sondes qui ont été lancées dans les années 70, à la fin des années 70, qui s'appellent Voyager 1 et 2. Et donc ces sondes-là, ce sont les premières photos qui ont ramené les premières photos des grosses planètes. Et donc moi, ça me passionnait. Donc je découpais ça et je collais ça dans mes petits cahiers. Et puis j'essayais de trouver des explications sur, c'était quoi qui composaient les anneaux de Saturne, pourquoi il y avait une tache sur Jupiter, quelles étaient les planètes les plus éloignées et tout ça. J'essayais de comprendre le monde qui nous entoure. Et je trouvais ça vraiment passionnant à l'époque. Enfin, je trouve toujours ça passionnant. D'ailleurs, je dis ça à l'époque, mais je trouve toujours ça passionnant maintenant.
Donc à l'époque, vous aviez une idée de vers quoi vous tendriez concernant votre avenir professionnel ou...
Alors, à l'époque, moi, j'étais passionnée par les étoiles et tout ça, mais à l'école, je n'étais pas du tout passionnée par les maths et les sciences. Bizarrement, je ne faisais pas trop le lien, d'ailleurs, avec le fait que pour comprendre mieux l'univers qui nous entoure, il vaut mieux faire des études scientifiques quand même. Et donc, à l'école secondaire, je n'ai pas choisi ni maths ni sciences en option. J'étais en langue, en fait. Je fais anglais-allemand. Et c'est seulement de ma dernière année d'école que je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire dans ta vie? Est-ce que tu veux faire des langues? Et je me suis dit, non, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le monde qui nous entoure. Et voilà, donc j'ai décidé de faire des études de physique. Alors, j'ai un peu ramé en première année, bien sûr, tout a un prix. Et donc, voilà, j'ai raté ma première année. Mais après, j'ai vraiment accroché. Je suis très, très contente d'avoir fait ce choix-là.
Et donc, après la fin de votre cursus universitaire, vous aviez... c'était quoi un peu votre parcours professionnel jusqu'à maintenant?
J'ai fait des études de physique. Donc, à l'époque, c'était 4 ans. Ça s'appelait une licence. Maintenant, c'est l'équivalent, c'est un master. Là, c'était très théorique comme étude, mais bon, j'ai eu l'occasion de faire mémoire dans un laboratoire qui faisait de la spectroscopie. Donc là, c'est vraiment essayer de comprendre les interactions entre la matière et la lumière. Et ça m'a ouvert d'autres perspectives parce que je me suis rendu compte qu'il y avait moyen d'étudier l'atmosphère qui nous entoure, l'atmosphère de la Terre, et qu'on ne devait pas nécessairement aller voir aussi loin que les étoiles pour essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Et donc, en étudiant l'atmosphère terrestre, on peut regarder de quoi elle est composée, de quels gaz, de quelles particules. Et on commençait à ce moment-là vraiment à comprendre tout ce qui est, surtout sur l'air qu'on respire, comment la pollution se développe, s'installe, etc. Et donc voilà, ça, c'est j'ai fait ma mémoire là. Et alors, j'ai eu l'occasion de faire une thèse dans ce laboratoire-là qui est à l'ULB. Et puis après, je suis partie sur une bourse de post-doctorat, donc c'est après la thèse, et je suis partie à Paris. Et j'ai eu une bourse de l'Agence spatiale française pour travailler sur le même type d'instrument que celui sur lequel je travaillais en thèse, sauf qu'il était embarqué sur un satellite. Et depuis, ça fait 30 ans maintenant, je travaille toujours sur le même satellite, en fait, une mission qui s'appelle IASI et qui permet de regarder vraiment comment est composée l'atmosphère, comment les gaz se déplacent partout autour de la Terre.
Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne concrètement, cet instrument?
Alors, l'instrument, c'est un spectromètre à transformer de Fourier, c'est un instrument qui fait 100 kg et d'un volume de 1 mètre sur 1 mètre, enfin, à peu près 1 mètre cube. Et il voit à bord d'un satellite qui s'appelle METOP, qui est un satellite qui est dédié à la météorologie. Et ce qu'il fait, c'est qu'il étudie la radiation infrarouge qui sort en permanence de la surface de la Terre, parce que la Terre, c'est un corps chaud, en fait, ça émet comme un corps noir de la radiation infrarouge. Et cette radiation, quand elle va traverser les couches de l'atmosphère, elle va interagir avec la matière qui compose cette atmosphère, et en particulier les gaz qui sont présents dans l'atmosphère. Et nous, on va enregistrer, grâce aux détecteurs qui sont sur l'instrument, on va enregistrer la radiation infrarouge telle qu'elle est modifiée par la présence des gaz. Et grâce à tout un tas de codes informatiques, on va pouvoir mesurer les concentrations des gaz tout au long de ce qu'on appelle le trajet optique fait par la radiation. Et donc, à tout endroit où on a des mesures, on peut deviner quelle est la concentration des gaz qui sont présents dans l'atmosphère.
Et vous faites quoi avec ces mesures, ces données? Qu'est-ce que vous faites concrètement?
Eh bien, on surveille des gaz qui sont importants pour la santé humaine. Par exemple, on surveille l'état de la couche d'ozone qui nous protège des rayonnements ultraviolets. Ça, c'est une des applications. On peut surveiller les éruptions volcaniques. On peut voir comment les panaches des volcans, donc les volcans, quand ils éruptent, ils vont émettre toute une série de gaz et de particules. Et nous, on peut surveiller ça depuis l'espace et voir comment ces panaches se déplacent pour éventuellement donner des alertes aux populations, soit d'évacuer la zone s'il y a des gens qui habitent autour, soit pour éviter que les avions n'endommagent leurs hélices en passant à travers ces panaches qui vont, dont les cendres, par exemple, vont se coller sur les hélices des avions. Ça, c'est deux exemples d'applications. Il y en a plein d'autres. On a, on mesure une trentaine de molécules, donc il y a des tas de choses qu'on peut faire.
Du coup, ces mesures, ça peut aider réellement la population?
Alors, l'exemple des volcans, c'est le plus concret, c'est-à-dire là, carrément, on peut sauver des vies humaines. Il y avait un épisode en 2010, on a été les premiers à donner l'alerte sur un volcan en Indonésie qui s'appelle le Merapi. Et donc là, tout le village, donc 10 000 personnes, sauf le vieux sorcier qui ne voulait pas, mais a évacué. Et malheureusement, le vieux sorcier a laissé sa vie dans cet événement. Mais donc, par exemple, là, c'est notre satellite qui a été le premier à donner l'alerte sur cette éruption volcanique. Donc ça, c'est, on va dire, l'exemple le plus impressionnant. Les autres, c'est plutôt des exemples de gaz qu'on peut suivre et donner des alertes d'augmentation de pollution, ce qui est important pour les gens avec la santé plus fragile, soit les asthmatiques, soit les personnes plus âgées, soit les jeunes enfants. Et ça permet d'éviter, en fait, que les gens aillent faire du jogging, par exemple, quand il y a des niveaux élevés d'ozone ou d'autres gaz.
Pendant votre conférence, vous parliez aussi que le satellite pouvait détecter les déplacements des bateaux par rapport à la pollution maritime.
Alors oui, tout à fait. En fait, quand on brûle du fioul fossile, et dans les bateaux, il y a beaucoup de fioul, ça laisse une trace au niveau des gaz. Et en suivant le NO2, on peut voir effectivement le trajet des bateaux. Et ce que j'ai montré pendant la conférence, c'est qu'on peut montrer que ce trajet a changé ces derniers temps, quand il y a des attaques, soit des attaques de pirates, soit des attaques, par exemple, là, en mer Rouge, etc. Il y a eu tout un tas de problèmes et ça permet de voir que les bateaux changent de route quand il y a des menaces et font des autres trajectoires.
Est-ce qu'il y a des limites à l'observation de votre satellite ?
Oui, bien sûr. En fait, on parvient bien à mesurer les gaz qui sont présents dans l'atmosphère avec des concentrations assez abondantes. Ceux qui sont présents dans des concentrations très faibles, bien les moyens au sol sont plus adaptés. Et donc, on ne va pas nécessairement pouvoir compter sur le satellite pour surveiller certains gaz qui vont disparaître rapidement dans l'atmosphère. Pourquoi ? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle des signatures spectrales qui sont trop peu intenses. Et nous, on ne les voit pas. Et ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire les gaz qui restent très longtemps dans l'atmosphère. Je vais donner un exemple, c'est le dioxyde de carbone, CO2. Il reste une centaine d'années dans l'atmosphère. Et celui-là, ça veut dire qu'il va pouvoir se balader partout, se mélanger. Donc si on a, je sais pas, un incendie important quelque part dans l'hémisphère nord, eh bien, quelques années plus tard, il va se retrouver, le CO2 qui est dégagé par cet incendie va se retrouver aussi dans l'hémisphère sud. Et nous, avec le satellite, on va voir une signature très importante du CO2, mais on va avoir du mal à détecter chaque petit feu individuellement, puisque ce CO2 va être transporté par les vents, mélangé partout dans l'atmosphère. Et donc, dans nos signaux, on voit beaucoup, beaucoup de CO2, mais on a du mal à voir des toutes petites variations du CO2, des petites sources ponctuelles de CO2. Donc, le satellite, il est parfait pour mesurer des gaz qui restent quelques jours à quelques semaines dans l'atmosphère. Par contre, il n'est pas idéal pour mesurer des gaz qui restent que quelques secondes ou quelques minutes, ou bien, à l'inverse, qui restent plusieurs dizaines d'années dans l'atmosphère.
Vous avez les noms des gaz qui restent longtemps dans l'atmosphère?
On les connaît, mais parce que ces gaz-là, on les analyse en laboratoire, etc. Mais nous, on connaît la liste des gaz. En fait, en gros, ceux qui restent longtemps dans l'atmosphère, c'est beaucoup les gaz qui ont un impact sur le climat. Le CO2, le méthane, le N2O. Les gaz qui restent moins longtemps, c'est plus des gaz qui vont être liés à la pollution, donc qui vont rester au-dessus des villes et qui vont disparaître avant de pouvoir traverser un océan, par exemple.
Et ceux, par exemple, qui... qui reste au-dessus des villes, ça a un impact sur la santé des habitants ?
Alors oui, c'est un impact. Certains gaz sont ce qu'on appelle des gaz oxydants et donc ils sont difficiles en fait à gérer pour l'organisme humain. C'est vrai pour les gaz comme l'ozone par exemple, comme le NO2. C'est vrai aussi pour les particules surtout. Ça, c'est ce qui est le mieux documenté. Et donc les particules, elles sont liées aussi à certains gaz qui vont se décomposer. Donc je vais donner un exemple. Quand on fait de l'épandage d'engrais sur les champs, on épand de l'ammoniac sur ces champs, en tout cas des composés qui vont générer de l'ammoniac. Et cet ammoniac, quand il se dégrade dans l'atmosphère, va se transformer en particules. Et ces particules, on va les respirer en fait avec notre système cardiovasculaire. Et donc le système cardiovasculaire n'est pas fait pour ingurgiter des particules en masse. Et donc si les gens sont en bonne santé, eh bien voilà, ils vont... En fait, c'est un peu comme la cigarette, ils vont encaisser ça sans problème. Après, l'accumulation de pollution, donc si on a de la pollution de manière très élevée ou bien si on a une santé fragile, eh bien l'organisme va souffrir de cette accumulation et éventuellement développer des maladies, des problèmes cardiaques, pulmonaires. Les gens qui ont de l'asthme vont sentir quand il y a des niveaux de pollution élevés, par exemple. Et donc, d'où l'intérêt de donner des alertes à la population quand il y a des niveaux élevés de pollution.
Et donc, dans la conférence, vous disiez qu'il y avait des particules plus ou moins fines et que, justement, celles qui étaient les plus fines pouvaient plus facilement aller loin dans les poumons.
C'est ça. En fait, on range les particules par taille et on les classe en microns. Et donc, ce qu'on appelle les PM10, ça veut dire particulate matter de la taille de 10 microns. Les PM2.5, c'est 2.5 microns. Et maintenant, on identifie même les PM1, en fait, 1 micron. Et 1 micron, c'est vraiment très, très petit et ça va très, très loin dans les bronches et les poumons.
Quelles sont les sources principales de la pollution ?
Alors, la pollution, c'est saisonnier. Et donc, les sources ne vont pas être les mêmes en été et en hiver. En été, en tout cas, dès qu'il fait beau. Donc, aujourd'hui, par exemple, il fait beau. Et si ce temps-là s'est installé pendant plusieurs jours, on pourrait surveiller les niveaux d'ozone. Et l'ozone dans la troposphère, c'est-à-dire près de la surface de la Terre, c'est un polluant. Contrairement à l'ozone dans la stratosphère qui nous protège des rayonnements ultraviolets, l'ozone près de la surface, c'est un polluant. Et lui, il va se développer quand il y a beaucoup de soleil. Donc ce sont des réactions chimiques qui sont liées au trafic automobile, etc. Et dès qu'il y a du soleil, ça va activer la chimie et on va avoir des épisodes d'ozone qui s'installent. C'est souvent le cas au printemps ou en été, quand il fait beau plusieurs jours en suivant et qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Dès qu'il y a du vent ou de la pluie, ça va lessiver les gaz et on va avoir l'épisode qui disparaît. Mais donc si on a des masses d'air très très stables, on a au printemps ou en été des épisodes de pollution en ozone. À l'inverse, en hiver, ça va être plutôt de la pollution en NO2 ou en particules. Et ça va être fort lié au trafic automobile toujours, mais au chauffage, tout ce qui brûle des fuels fossiles en fait. Et si on rajoute à ça de l'épandage d'engrais dans les champs aux alentours des villes, eh bien souvent les pics de pollution, c'est la combinaison des trois. Souvent à la fin de l'hiver, on a la combinaison du chauffage, des voitures et des résultats de l'épandage d'engrais aussi.
Ah oui, et d'ailleurs Maxime, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais quand on était posé au bois de la Cambre avec un petit verre il y a quelques semaines, c'était assez étrange puisqu'il n'y avait aucun nuage, mais l'atmosphère était vraiment trouble.
Oui, bien sûr que je m'en rappelle, c'était super bizarre. Avant de partir, j'ai regardé la météo, ils annonçaient un grand soleil, du coup j'ai mis un t-shirt, mais sur place il faisait assez froid, car le soleil était comme caché derrière une sorte de brouillard dans le ciel. Cathy Clairbeau nous a expliqué qu'il s'agissait sûrement d'un épisode de pollution.
Et oui, un épisode de pollution, ça ressemble à ça, en tout cas pollution en particules, c'est-à-dire l'air devient plus opaque. Et on peut voir ça si on voit sur le toit d'un grand bâtiment comme ceux qu'il y a ici sur le campus de l'ULB. Eh bien, si on est sur le toit du bâtiment de sociologie, par exemple, on voit très très bien, quand il y a de la pollution au-dessus de Bruxelles, l'air paraît plus gris et on ne voit pas l'atomium, par exemple, alors que si l'air est transparent, on peut voir vraiment très loin, quoi.
Et bah oui, d'ailleurs, à la conférence, il y avait une information que vous avez un peu débunkée, on va dire. C'était que les gens avaient tendance à penser que la pollution était pire avant. Mais au final, pour vous, ce n'est pas trop le cas.
C'est un fait que la pollution baisse dans beaucoup d'endroits, y compris dans toutes les grandes villes européennes et de l'Est et de l'Ouest des États-Unis aussi. En Chine aussi, la pollution baisse. Et donc, il y a des endroits où elle continue à augmenter dans le monde, mais en tout cas, il y a beaucoup d'endroits où elle baisse. Et à quoi c'est dû? Ben, aux efforts qu'on fait, notamment sur le parc automobile qui est moins ancien. Des initiatives comme la Low Emission Zone, par exemple, font que les anciens moteurs sont interdits de circulation et donc, on va dire, ce qui sort des moteurs est plus propre. Les efforts qu'on fait pour isoler les maisons et tout ça contribue à faire baisser le niveau de pollution. Et bah, juste pour ce que j'ai raconté aussi à la conférence, c'est un épisode énorme de pollution qui a eu lieu dans les années 50 à Londres, où vraiment on ne voyait plus rien et il y a eu un nombre d'admissions à l'hôpital et un nombre de milliers de morts en fait, liés à cet épisode-là. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît plus aujourd'hui, vraiment des épisodes de pollution aussi intenses. Mais on espère que non, mais alors il y a quand même des villes où ça se produit encore. Bon, si vous allez faire un tour à Téhéran maintenant, je crains qu'il soit dans une situation où la pollution est très très élevée. Mais donc voilà, on ne peut pas dire qu'on ne connaîtra plus parce qu'il pourrait toujours y avoir moins d'efforts qui sont faits ou une explosion, je ne sais pas, d'une usine où il y a plein de gaz ou de particules qui s'échappent. Mais en tout cas, la qualité de l'air est meilleure qu'il y a quelques années et tend à s'améliorer en permanence.
Oui, donc c'est une nouvelle assez positive. Nous allons maintenant vous proposer une petite pause musicale avec Les Enfants du Monde de Green Team.
Maman m'a dit de faire attention. J'ai pas compris mais j'ai monté le son. J'ai vu la terre mourir à petit feu. Comme dit mon père, on aurait pu faire mieux. J'ai pas compris, j'ai posé des questions. Dites-moi les grands, n'ont-ils pas de raison? Ce serait dommage qu'on ne puisse plus vivre ici. Ou même pire qu'on meure de leur connerie. Et ça danse, danse, danse dans ce monde, mais ça ne pense pas. Et ça danse, danse, danse dans la ronde, mais nos vieux ne pensent pas.
Nous sommes les
Tu devrais faire pareil, mon garçon. Dans quelques temps, ce sera déjà trop tard. On ne peut plus laisser ça au hasard. J'ai pris ma feuille et fait quelques brouillons avant de vous écrire cette chanson. La vérité sort de la bouche des enfants. Donnez-nous droit de devenir grand. Et ça danse, danse, danse dans ce monde. Mais ça ne
C'était Les Enfants du Monde du collectif Green Team. Comme vous l'avez sûrement remarqué, c'était un hymne engagé pour l'écologie, incitant à protéger notre planète avant qu'il ne soit trop tard.
Pour revenir à l'instrument qu'utilise Cathy Clairbeau pour analyser la pollution, nous lui avons également posé une question sur d'éventuels phénomènes surprenants qu'elle aurait pu observer grâce à celui-ci.
Alors, ce qu'on a pu voir assez récemment, sans deviner tout de suite à quoi c'était dû, c'est qu'on voyait des concentration élevée d'un gaz qui s'appelle l'éthylène, c'est C2H4. et toujours en Iran, mais la spécificité de cet événement-là, et c'est pour ça qu'on a mis du temps à comprendre, c'est que ça bougeait géographiquement. Donc souvent, quand on voit des concentrations élevées dans le gaz, on regarde avec Google Earth qu'est-ce qu'il y a en dessous, et souvent on va trouver une industrie pétrochimique ou une usine d'engrais ou quelque chose qui permet d'expliquer pourquoi il y a beaucoup de gaz qui s'échappe de cet endroit-là. Et là, on voyait mais vraiment des concentrations intenses de C2H4 tout au long de la frontière Iran-Irak, mais pas tout le temps non plus. Donc on voyait genre une ou deux fois par an, paf, un pic de pollution à différents endroits. Et on a mis 2 ans au moins, et c'est un des chercheurs de l'équipe qui a fini par deviner ce que c'était. En fait, il y a un énorme pipeline qui passe là et qui transporte du C2H4 à pression très concentrée, à l'état liquide, on va dire. Et quand il y a une fuite sur le tuyau, il va s'échapper en masse vers l'espace. Et donc, le fait que ça bouge, c'est d'abord parce que la fuite, elle peut être à différents endroits sur le tuyau. Et en plus, une fois que le gaz s'échappe, il va être transporté par le vent. Et nous, on va voir au prochain passage du satellite. Et donc, parfois, c'était à gauche du tuyau, parfois, c'était à droite du tuyau, etc.
Oui, on le voit très bien sur les
images.
Oui,
on voit très bien, en fait, que c'est...
Ces
Et donc voilà, ça c'était une surprise et quelque chose à quoi on ne s'attendait pas, de pouvoir surveiller les fuites sur les tuyaux. Alors dans une certaine mesure, là ça veut dire que la fuite est vraiment énorme, parce que ça veut dire qu'elle est suffisamment grande pour qu'on le voit depuis l'espace.
Vous avez d'autres observations qui vous a marqué comme ça durant votre carrière?
Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir que quand on choisit de faire une mission satellite qui fait ce qu'on appelle du sondage atmosphérique pour suivre les polluants, on fait une liste des molécules qu'on voudrait surveiller. Et là, dans notre petite liste, il y avait le monoxyde de carbone, l'ozone, etc. Il y avait une dizaine de molécules comme ça. Et maintenant, on en mesure une trentaine, donc on n'avait pas prévu tout ça. Et par exemple, on n'avait jamais prévu qu'on pourrait surveiller l'ammoniac. Et l'ammoniac, c'est un polluant en tant que tel. C'est un polluant qui est vraiment impactant sur la santé, mais en plus qui va se transformer en particules. Et donc, c'est important de pouvoir le surveiller. Et il est difficile à mesurer depuis le sol parce que c'est un peu collant, l'ammoniac. Et donc, il n'y a pas beaucoup de moyens d'observation qui fonctionnent vraiment bien. Et donc, il n'y a pas des réseaux de mesure d'ammoniac partout. Et pourtant, c'est un polluant qui est surveillé par les réglementations, qu'on doit surveiller au travers des réglementations européennes, par exemple. Et donc, le fait qu'on puisse le mesurer depuis l'espace, c'était une surprise, on ne s'y attendait pas. Il ne reste pas très longtemps dans l'atmosphère, donc on ne pensait pas qu'on pourrait le mesurer depuis l'espace. Par contre, on a un peu de chance, là, on va dire, sa signature, elle est très spécifique, elle est à un endroit où rien d'autre n'absorbe, et donc même si elle est toute petite, on la voit très clairement. Et donc pour nous, ça a été une découverte, en fait, de vraiment pouvoir, on a mis deux ans après le lancement, on voyait des petites signatures d'un gaz qu'on n'identifiait pas, et on s'est dit, tiens, qu'est-ce que ça peut être? Là, on va voir dans des tables de ce qu'on mesure en laboratoire, et là, on s'est rendu compte que c'était lié à l'ammoniac. Au début, on n'y connaissait rien sur l'ammoniac et on s'est dit, tiens, on a cherché au-dessus des villes et on voyait que ce n'était pas là que c'était émis. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est surtout lié à l'agriculture. Donc, on en trouve beaucoup là où il y a soit de l'épandage d'engrais sur les champs, soit où il y a de l'élevage de bétail intensif. Et donc, les points rouges où il y a beaucoup d'ammoniac, mais ce n'est pas aux endroits où on voit d'habitude de la pollution, c'est à d'autres endroits. Et donc voilà, maintenant on le surveille très bien, surtout si on utilise plusieurs passages du satellite, on moyenne sur quelques jours, voire quelques mois, et on voit très très bien les sources d'ammoniac. Et donc on a fait tout un inventaire d'ammoniac, il y a un des chercheurs qui a passé quasi un an de sa vie à faire ça, vraiment un inventaire des 400 sources plus importantes d'ammoniac dans le monde.
Et quand le satellite remarque une présence trop supérieure d'un certain polluant, comment ça se passe après pour prévenir les autorités, pour qu'ils puissent avertir la population ?
Alors nous, c'est pas notre travail. Nous, on fait de la surveillance et on fournit ces informations pour qui veut. Et donc, il y a différents organismes qui vont pouvoir utiliser ces informations si c'est utile pour eux. Par exemple, on a parlé des volcans. Là, il y a des compagnies d'aviation qui peuvent s'abonner à nos alertes pour essayer d'avoir des alertes pour ne pas éviter de passer dans les panaches de volcans et éviter d'endommager les moteurs des avions. On a d'autres traceurs, par exemple le monoxyde de carbone qui est un très très bon traceur de feu. Donc les détecteurs en monoxyde de carbone, c'est ceux que vous mettez dans les maisons pour alerter les incendies. Le monoxyde de carbone, on a des cartes tous les jours et on va les fournir à des centres qui font de la prévision de pollution. Donc nous, on donne ces cartes-là, par exemple à Copernicus, qui a un service atmosphère et qui va générer des cartes de prévision de pollution pour donner des alertes aux gens. Et ils vont utiliser nos données, entre autres, hein, parce qu'ils utilisent tout ce qu'ils peuvent utiliser, pour faire ces alertes pollution.
Oui, donc par exemple, quand la ville de Bruxelles décide par exemple d'interdire les voitures un certain jour et de mettre les transports en commun gratuits, c'est entre autres grâce à vos instruments.
Alors oui, ça peut, c'est-à-dire que eux, ce qu'ils vont faire, c'est utiliser ces observations-là pour faire des prévisions de ce qui va se passer les prochains jours. Et en général, c'est vraiment quand ils voient que les masses d'air sont stables et quand le modèle prédit qu'il va y avoir ni vent ni pluie et que la situation va rester comme ça pendant quelques jours. On utilise des données satellites et des données sol pour essayer de faire des prévisions des prochains jours et donner des alertes à la population et prendre des mesures s'il faut. Si on dépasse les seuils qui sont nocifs pour la santé, ce qui arrive de moins en moins souvent, eh bien on peut faire des alertes à la population et on peut faire les transports en commun gratuits ou bien faire l'alternance des plaques pair et impair, c'est ce qu'on faisait en France par exemple, ou limiter la circulation sur les autoroutes à 100 ou à 90, par exemple.
Ce sont eux qui viennent demander vos données ou vous envoyez directement les données
Alors, on a un système qui fait qu'ils ont nos données automatiquement. Leur système informatique va les chercher chez nous sur des serveurs. Ça dépend des données, en fait. Avec chaque organisme, on a des façons de fonctionner qui sont différentes. Soit on les met sur leur serveur, soit ils viennent les chercher. Et tout ça est automatique, hein. Il n'y a personne qui pousse sur un bouton pour les mettre, en fait.
Vous avez dit qu'il y a une liste d'une trentaine de polluants. Est-ce qu'il y a encore des polluants aujourd'hui dont vous avez du mal à les calculer, à les mesurer?
Alors oui, tous ceux qui sont présents en concentration assez peu abondante, c'est difficile de les mesurer. Tous les polluants principaux, on peut les surveiller par satellite. On va dire les polluants les plus importants, ceux qui sont réglementés, on peut les voir par satellite.
Il n'y a aucun polluant important que vous avez encore du mal à calculer ou un polluant un peu plus que d'autres?
Alors nous, avec notre instrument, on voit que les polluants qui sont dans l'air. Après, il y a plein de polluants dans les sols ou dans l'eau. Et donc ça, par exemple, on ne les voit pas. Ils sont difficiles à voir par satellite. Donc voilà, on a beaucoup parlé par exemple des PFAS ces derniers temps. Ben ça, on voit pas avec notre satellite. Ce serait bien si on les voyait, mais on les voit pas. Donc je dirais que tous les polluants principaux, on peut quand même les surveiller par satellite. Et ça permet, et le grand avantage, c'est que si, maintenant, on demande aux pays en fait, de déclarer ce qu'ils émettent comme gaz, et surtout les gaz à effet de serre, par exemple, dans le cadre de réglementation pour surveiller le climat. Et donc ça permet, le fait qu'ils puissent être surveillés par satellite, ça permet de vérifier que les pays ne mentent pas et déclarent des inventaires qui sont réalistes par rapport à ce qu'ils émettent. Et donc le fait que les satellites passent partout et tout le temps, le gros avantage c'est de pouvoir surveiller ce que les voisins font et de savoir que les voisins peuvent surveiller aussi sur ce qu'on émet.
D'ailleurs Maxime, je ne sais pas si tu te souviens, mais pendant la conférence, Cathy Clairbeau a parlé d'une anecdote assez surprenante à propos de flamants roses.
Oui, bien sûr que je m'en souviens, et Cathy Clairbeau aussi, car c'est vraiment une découverte inattendue dans sa carrière. Elle nous l'a expliqué en détail.
Donc je vous ai dit qu'on pouvait surveiller les sources d'ammoniac, et donc on a fait des moyennes sur plusieurs années pour essayer d'améliorer les informations, parce que les données qu'on restitue comme ça sur un jour, la fiabilité est assez faible. Par contre, si la source reste toujours au même endroit, on peut vraiment augmenter la qualité de l'observation. Et quand on moyenne sur plusieurs années, on peut vraiment expliquer toutes les sources. C'est-à-dire qu'on peut faire un zoom sur Google Earth et voir, oui, à tel endroit, il y a un élevage important de vaches, par exemple, ou de cochons, ou il y a une usine d'engrais. Et donc, on pouvait vraiment déterminer à chaque endroit, les 400 sources dont j'ai parlé tout à l'heure, déterminer, il y a une raison pourquoi il y a beaucoup d'ammoniac qui est mis. Et alors, il y avait un endroit en Tanzanie, près d'un lac, le lac Natron. Là, on voyait une source d'ammoniac, mais on ne trouvait pas de raison qu'il y ait des émissions d'ammoniac à cet endroit-là. Et après, tout un temps plein d'articles, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait des milliers de flamants roses qui venaient de temps en temps de manière saisonnière, en fait, à cet endroit. Et donc, avec leur déjection, en fait, elles émettent, ça émet aussi de l'ammoniac, et c'est ça qu'on voyait depuis l'espace, en fait. C'est la seule source naturelle qu'on ait trouvée, on va dire.
Vous avez souvent comme ça des observations un peu...
Ça, c'est le grand plaisir de la recherche, c'est qu'on ne s'ennuie jamais parce qu'il y a toujours des découvertes qu'on fait sans le vouloir. Et donc celle-là, ça a été... c'est resté un petit mystère longtemps. L'histoire de la fuite des tuyaux entre la frontière Iran-Irak aussi, c'est resté un mystère. Les surprises viennent, de molécules qu'on découvre et on s'y attendait pas, ça aussi. Donc, non, ça c'est le grand plaisir de la recherche, c'est qu'on a toujours plein de surprises, plein de nouvelles choses à voir, plein de choses qu'on comprend pas, et donc sur lesquelles on reste parfois coincé pendant des années et qu'on finit par décoincer.
Et par rapport au futur, est-ce que vous voyez des avancées potentielles ?
Alors oui, je vais toujours parler de mon instrument. Donc cet instrument-là, qui s'appelle Yazi et qui vole depuis 2006, il y a trois exemplaires qui ont déjà volé, mais c'est le même instrument, c'est-à-dire qu'ils ont construit les trois exemplaires en même temps pour faire baisser les coûts. Et depuis quelques années, en fait exactement depuis 2009, on travaille sur un instrument qui est la suite de celui-là. Et il a été lancé cet été. On a commencé à travailler depuis 2009 et il a été lancé seulement maintenant. C'est très très long, il faut être très patient quand on travaille sur les satellites. Et donc c'est un nouvel instrument. On n'a pas encore les données parce qu'il y a tout un temps pour calibrer, etc. Il y a plusieurs mois qui s'écoulent, mais on va avoir bientôt les données. Et donc on s'attend à pouvoir mesurer des nouvelles choses. Alors je ne sais pas encore quoi, mais c'est un meilleur instrument puisqu'il a été conçu plus récemment et que toutes les techniques s'améliorent. Et donc on s'attend à soit pouvoir trouver des nouvelles molécules, soit pouvoir voir des événements qu'on ne voyait pas encore avant. À voir, ça va être de nouvelles surprises.
Il pourrait être opérationnel quand, le nouvel instrument, dans les années à venir donc...
Alors il est prévu pour... donc il y a trois exemplaires aussi qui ont été prévus. Ils ont été construits de la même manière, tous les trois en même temps. Et donc on va en lancer un tous les 7-8 ans. Et donc il va faire des mesures à partir de maintenant jusqu'à 2040. Ça permet aussi de faire du suivi long terme des gaz et de voir si sur le long terme ils diminuent ou comment ils changent. Donc ce qu'on peut voir par exemple depuis le début de la mission Yazi, c'est que là, en gros, avant c'était toujours la Chine qui était le pays qui émettait le plus de gaz en général, le plus de polluants. Et maintenant c'est plutôt l'Inde qui est en train de prendre le relais. La Chine, la pollution baisse, comme dans les grandes capitales européennes. Et avec le nouvel instrument, ben voilà, ça va prendre le relais des mesures actuelles et donc on va pouvoir vraiment continuer à surveiller tous ces gaz sur le long terme.
Et donc oui, pour revenir à l'Inde, donc vous avez expliqué que là, la pollution, elle augmentait, mais vous avez aussi expliqué que la pollution émise en Inde ne nous impactait pas forcément ici en Belgique et surtout dans l'hémisphère nord.
C'est ça, mais parce qu'il y a par exemple les particules ou les gaz qui ne restent pas très longtemps dans l'atmosphère. Ils sont transportés par les vents, mais ils ne restent pas suffisamment longtemps pour pouvoir traverser l'océan, par exemple. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur, un gaz qui est émis en Chine, il va pouvoir faire le tour de la Terre seulement s'il reste au moins 2 mois dans l'atmosphère. Et quand je dis le tour de la Terre, c'est le tour à même latitude, c'est-à-dire il va rester dans l'hémisphère nord. Si on veut traverser la barrière de l'équateur, je dis la barrière parce que c'est vraiment une barrière dynamique, les masses d'air restent confinées dans leur hémisphère. Il faut des gaz qui restent plus qu'un an. Et donc ça, c'est le cas pour les gaz à effet de serre. Le CO2, le méthane, par exemple, vont rester le CO2 une centaine d'années, le méthane une dizaine d'années. Ceux-là vont se disperser partout. Mais ceux-là ne sont pas des polluants directement, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gaz qui ont un impact direct sur la santé. Ce sont des gaz qui vont renforcer le réchauffement climatique. Mais donc la pollution en Inde ne va pas... Elle va se rester au-dessus des villes principales en Inde. Elle ne va pas se déplacer jusque chez nous.
D'ailleurs, par rapport aux normes de pollution maintenant, on peut apercevoir une différence importante entre les normes européennes et les normes de l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS.
Effectivement, pour le dioxyde d'azote, donc le NO2, la norme européenne est fixée à 40 microgrammes par mètre cube, alors que l'OMS recommande seulement 10 microgrammes. Pour l'ozone, donc l'O3, l'Union européenne autorise jusqu'à 120 microgrammes par mètre cube en moyenne sur 8 heures, contre 100 microgrammes selon l'OMS. Et enfin, pour le dioxyde de soufre, donc le SO2, la limite européenne est de 125 microgrammes par mètre cube sur 24 heures, alors que l'OMS préconise plutôt 40 microgrammes. Nous avons donc demandé à Cathy Clairbeau ce qu'il faudrait faire pour faire baisser la pollution.
Effectivement, les normes de l'OMS sont encore plus restrictives. Ce qu'il faut faire, c'est continuer les efforts, c'est-à-dire continuer à isoler les maisons et à limiter le trafic automobile. Il y a moyen aussi d'utiliser de l'engrais dans les champs de manière à ce que ça émette moins de particules. Il y a des techniques, en fait. Et donc, je pense qu'il faut continuer à surveiller les polluants et ne pas diminuer les primes qui permettent aux gens d'isoler leur maison, etc. Parce que ça ne va pas inciter les particuliers à faire des travaux pour isoler leur maison. Mais donc voilà, il y a un impact direct sur la santé de la pollution et donc il faut tout faire pour faire baisser cette pollution.
Vous parlez aussi du coup de la sensibilisation contre la pollution en Chine qui peut être bonne et tout. Et ici, en Belgique, à Bruxelles, vous trouvez qu'elle est comment ? Est-ce que la sensibilisation est bonne ? Est-ce que ça se fait ressentir en Belgique, en France, à Paris ?
Alors, je trouve que les gens connaissent pas très bien ce que c'est la pollution. Ils confondent beaucoup les gaz qui contribuent à la pollution et les gaz qui contribuent au climat. Donc dans le vocabulaire, d'ailleurs, on appelle souvent des polluants le CO2. On dit souvent que c'est un polluant. C'est pas un polluant, c'est un gaz à effet de serre. Et donc, je pense qu'il y a un petit mélange à ce sujet-là, alors que les gaz à effet de serre, ils ont plutôt tendance à augmenter, contrairement aux polluants. Et après, je trouve que la presse pourrait de temps en temps rappeler que la pollution baisse et que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, que tout ce qu'on met en place, il n'y a pas que du négatif, ça marche en fait. Et la pollution, c'est probablement le meilleur exemple de réglementation qu'on met en place, auxquelles les pays doivent obéir et qui marche quoi, en fait.
Et donc, pour conclure cette émission, est-ce que vous auriez un message à faire passer à nos auditeurs aujourd'hui ?
Disons que le fait qu'on comprenne de mieux en mieux l'impact sur la santé fait qu'on en parle de plus en plus, et c'est probablement pour ça aussi qu'on parle plus de la pollution que ce qu'on en parlait il y a 10-15 ans, quand l'air était plus pollué. Et donc, moi, je trouve que le métier de chercheur, c'est un métier passionnant. Et donc, mon message positif, c'est aussi de dire, aux jeunes qui nous écoutent éventuellement, engagez-vous dans les études scientifiques si possible, faites de la recherche, parce que c'est un métier dans lequel on ne s'ennuie jamais. On découvre toujours toutes sortes de trucs. Moi, j'adore mon métier. Je trouve que je connais plein de gens de ma génération qui n'aiment pas du tout ce qu'ils font comme métier. Moi, je m'ennuie jamais. On fait tous les jours des choses différentes. Il y a toujours des choses passionnantes à regarder. Et donc, mon message positif, c'est que la science permet de comprendre mieux les choses, et tant mieux. Et on connaît plein de choses maintenant. Et donc, ça permet de mieux comprendre ce qu'il faut mettre en place comme mesures pour limiter la pollution, limiter l'accumulation des gaz à effet de serre, etc.
L'émission touche désormais à sa fin. Merci à Cathy Clairbeau de nous avoir partagé son expérience. Merci à toi aussi, Maxime, de m'avoir accompagné lors de cette émission. Et enfin, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, en espérant que cette émission a pu vous aider à y voir plus clair sur la pollution. Nous vous quittons sur du Yannick Noah avec Aux arbres citoyens. Bonne fin de matinée sur Radio Campus.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules, de squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses,
aux arbres citoyens,
il est grand temps qu'on propose
un monde pour demain.
Aux arbres citoyens, quelques baffes à prendre. La veille est pour demain, des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux. Plus personne à genoux, fait passer